Alors ce matin, j'ai un verset biblique pour notre assemblée qui se trouve dans Philippiens 3, verset 20, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3 et au verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons le Sauveur Jésus-Christ. Et ma question, c'est: est-ce que nous attendons le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ? Les premiers chrétiens, ils l'attendaient d'une minute à l'autre. Après que Jésus soit monté au ciel en disant « Je vais revenir », pour eux, c'était une question de semaine. Et donc, ils étaient là, ils l'attendaient, ils disaient « Le Seigneur va venir, alors répandons l'évangile et quand il va venir, on va tous partir, ça va être merveilleux. Et puis, le Seigneur est proche, il est à la porte. » Et puis, le temps est passé, le Seigneur n'est pas revenu aussi vite qu'ils avaient attendu. Pourquoi le Seigneur a-t-il tardé? Parce que Dieu ne tarde pas vraiment, mais pourquoi le Seigneur n'est pas revenu tout de suite? La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse de revenir, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Et c'est la grâce et la patience de Dieu qui fait qu'il suspend son jugement. Il retient le temps et l'heure du jugement, mais un jour il va revenir, c'est certain. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, hein, au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Ces paroles sont extraordinaires. Le Seigneur a dit, je vais partir. Donc les disciples, quand il leur a dit ça, n'ont pas compris. Il était avec eux. Il dit, mais où est-ce que tu vas partir? Et après, quand l'événement a eu lieu, quand ils l'ont vu monter au ciel, ils ont dit, d'accord, c'était ça. Il est parti au ciel. Et il a dit, je vais vous préparer une place. Et ça, c'est merveilleux. Jésus n'a pas dit, je m'en vais, soyez des bons chrétiens. Et si vous n'êtes pas des bons chrétiens, vous n'aurez pas la vie éternelle. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous m'avez accepté, je suis votre sauveur, je vais vous préparer une place. C'est merveilleux d'avoir un sauveur qui nous prépare une place. Ma place est prête. Vous savez, quand on prend un billet d'avion, on espère toujours avoir de la place. Une fois, on avait une amie hôtesse de l'air qui nous a donné des billets en stand-by. Les billets en stand-by, c'est que vous n'avez pas de place réservée. Vous arrivez avec un billet, donc qui était gratuit, c'était formidable. Mais il faut qu'il y ait de la place dans l'avion. S'il n'y a pas de place, vous passez votre tour. Et c'est très dur, en fait. Ce n'est pas une grande bénédiction d'avoir un billet de ce genre, parce que vous êtes là, est-ce que je vais avoir un billet? Et sinon, il faut attendre des heures, le prochain avion. Des fois, il faut revenir chez soi, revenir à l'aéroport, et vous ne savez toujours pas, vous ne pouvez pas réserver. Mais de savoir que Christ nous réserve une place, c'est certain. Ma place, il est en train même de la préparer pour moi, et ensuite, il viendra me chercher. Jésus va revenir, oui, mais avec gloire et puissance. Il ne va pas revenir comme la première fois qu'il est venu. Lorsqu'il est venu la première fois, c'était en toute humilité. Il est né dans cette étable, hein, ce petit enfant dans une famille pauvre de Nazareth, et il a vécu d'une façon très dépouillée, et il a donné sa vie pour l'humanité. Mais quand il reviendra, c'est le Seigneur de gloire qui reviendra, avec toute sa puissance. Alors pourquoi Jésus va-t-il revenir? Pourquoi est-ce qu'il doit revenir? Mais il doit revenir, comme il a dit, pour chercher ceux qui croient en lui déjà. Il vient nous chercher, c'est la première raison pour laquelle le Seigneur va revenir. Il veut nous prendre avec lui au ciel. Ça s'appelle le jour de la résurrection, lorsque les croyants en Jésus-Christ vont ressusciter et monter au ciel dans leur corps glorieux. On a lu, hein, nous n'aurons plus ce corps d'humiliation, nous aurons le corps de gloire. Ceux qui seront vivants ce jour-là ne vont pas ressusciter au sens propre, parce que pour ressusciter, il faut être mort déjà. Mais ils vont être transformés, dit la Bible, en un clin d'œil. Ils vont recevoir ce corps céleste et on va tous monter au ciel. C'est la promesse de Dieu. Il y a des centaines de versets de la Bible qui parlent de ce sujet. Des centaines. C'est vraiment un grand sujet dans la parole de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas toujours un grand sujet dans les églises. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Christ ne venant pas, l'église a commencé à s'installer. Au IVe siècle, un empereur romain est devenu chrétien. Il a dit « Désormais, la religion officielle de l'Empire, ce sera le christianisme. » Et les églises sont devenues riches et puissantes. Et puis, on a quitté les pasteurs et les diacres et on a commencé à mettre des évêques qui dominaient sur d'autres. Et puis après, au-dessus des évêques, on a mis des cardinaux. Et puis finalement, l'évêque de Rome est devenu un roi, le pape. Et cette église n'attendait plus Jésus-Christ. Elle est devenue un État sur la terre. Et même, elle a changé la doctrine de la Bible. Elle a dit à ses disciples, hein, « N'attendez pas le retour de Christ, mais essayez de construire le royaume vous-même. » Et quand on veut construire le royaume de Dieu soi-même, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? La force, la guerre. Et l'Église a commencé à utiliser les armées des États, hein, des royaumes, pour imposer le royaume de Dieu sur terre. Et ça fait des choses abominables, hein, que Jésus n'a jamais demandé. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le verset qu'on a lu dans Philippiens, « Nous sommes citoyens des cieux ». On ne cherche pas à établir un royaume, un califat chrétien sur la terre. Mais un jour, Christ va revenir sur la terre, établir son règne par contre, juger le monde. Et c'est la deuxième raison pour laquelle il va venir. Il va juger la terre et il va enlever le mal. Et ça, c'est extraordinaire. Ça fait partie du salut de Dieu. Le salut de Dieu, ça nous donne le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et ça, c'est un cadeau immérité et incroyable de Dieu, de nous sauver quand on l'accepte, quand on se repent et on l'accepte. Mais le salut, ce n'est pas tout. C'est qu'il va sauver la terre entière lorsqu'il va éradiquer le mal. Et le mal va aller en augmentant. Surtout lorsque Dieu va prendre les chrétiens, hein, ses enfants. Qu'est-ce qui va rester sur la terre? C'est tous ceux qui ne croient pas. Et les puissances du diable, des démons, vont se déchaîner. Là, elles sont un peu retenues. Et c'est vrai que les chrétiens retiennent le mal. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, hein, retient le mal sur la terre. Mais quand il n'y aura plus cette retenue, vous savez, quand les hommes n'ont plus de retenue, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cas, il y a des gens, ils n'ont aucune retenue, aucune conscience. Rien ne les retient. Alors là, vous avez un déchaînement de même inimaginable, d'horreur. L'être humain est capable des pires horreurs. Quelque part, lorsque on sent une impunité, hein, on est capable des choses comme ça. Les nazis, pourquoi ils sont allés si loin? C'est qu'ils avaient un sentiment d'impunité. Ils disaient, nous sommes investis, nous sommes la race aryenne, la race supérieure, et nous devons éliminer tous ceux qui ne sont pas comme nous, hein, et qui sont inférieurs à nous, et en particulier les juifs. Mais il n'y avait pas que les juifs aussi, hein. Cette impunité qui rend fou, hein. Et Christ viendra arrêter ce mal. Il arrêtera aussi l'antéchrist qui sera justement le chef, hein, de cette rébellion mondiale contre Dieu et contre le bien. Pendant ce temps-là, le Seigneur, lui, effacera nos peines. Il consolera nos cœurs. Je pense aux frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Il y a des dossiers qui sortent un peu à droite, à gauche, qui montrent que la persécution des chrétiens augmente régulièrement chaque année dans le monde. Il fut un temps où c'était les pays communistes qui persécutaient les chrétiens. Il en reste encore en Chine, au Laos, au Vietnam. Il y a aussi la Colombie, ce n'est pas le communisme, c'est encore autre chose. Mais la majeure partie aujourd'hui sont des pays musulmans. qui non seulement interdisent la foi chrétienne, mais la persécutent. Christ viendra rétablir la justice, la paix, consoler ses enfants. Le dernier ennemi que Christ va vaincre, on le trouve en 1 Corinthiens 15, je vais vous lire ces quelques versets 22, 1 Corinthiens 15, pour ceux qui ont leur Bible. Le dernier ennemi, verset 22 de 1 Corinthiens 15, « Comme tous meurent en Adam, nous sommes tous descendants d'Adam et donc nous sommes mortels, de même tous ceux qui ont cru, revivront en Christ. » Nous ressusciterons avec Christ. Et il continue, « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ça, c'est la résurrection. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. » Et là, il parle en fait de la hiérarchie des démons, Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ah, c'est beau ça. On en parle à Pâques, mais il ne faut pas en parler qu'à Pâques, parce que sinon c'est dommage. La mort sera vaincue. La mort n'est pas dans le plan de Dieu au départ. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Il a créé pour qu'on vive avec lui, en communion avec lui. La mort est un jugement sur le péché. Et quand Christ viendra rétablir la justice parfaite, il enlèvera ce jugement, il enlèvera la mort. Et nous vivrons éternellement avec lui. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Deuxième épître de Pierre 3:13. Alors, Jésus va revenir pour toutes ces raisons, parce que pour l'instant, Dieu ne règne pas sur la terre de la façon qu'il voudrait. Dieu règne sur toute chose, mais sur la terre, on voit que le mal est très présent, et même l'injustice règne. Et Christ va régler cela une fois pour toutes. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Je vous l'ai dit déjà, je le répète, parce que Dieu est patient. Il veut que les gens aient une chance de se repentir. Nous n'avons pas la patience de Dieu. Nous, on aura déjà tout nettoyé. Mais tout nettoyé, ça veut dire vous aussi. Vos péchés. Et Dieu est un Dieu de grâce. Il nous laisse une chance. Et encore aujourd'hui, nous avons la vie et nous pouvons nous repentir. Nous avons cette chance qui nous est donnée, ce matin même. On ne sait pas combien de temps on va vivre. On ne sait pas quand Christ va revenir parce qu'il peut revenir d'une minute à l'autre. Mais il y a des chrétiens qui n'attendent pas le retour de Christ. Soit qu'ils sont ignorants de la chose, ils disent « on ne m'en a jamais vraiment parlé que Christ allait revenir ». Soit que c'est une vérité qui les dérange. Oui, c'est un peu fanatique comme idée, c'est quoi? Il y a des gens qui ont donné des dates, ils se sont trompés. Mais oui, parce que Christ a dit « il ne faut pas donner de date ». Les témoins de Jéhovah en particulier, le fondateur des témoins de Jéhovah avait donné une date pour le retour de Christ, 1914. Non seulement le royaume de Dieu n'est pas venu en 1914, mais il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est complètement trompé. Les adventistes du septième jour avaient donné des dates. Et plein de sectes chrétiennes ont dit, ça y est, on sait, récemment en Californie, c'est encore un chrétien d'une radio chrétienne qui avait annoncé... au mois d'octobre 2010 ou 2011, Christ va revenir, préparez-vous. Et plein de gens ont vendu leurs biens, leurs maisons, ont quitté leur travail. Ils ont cru cet homme, ils ont donné de l'argent pour qu'ils mettent des panneaux publicitaires partout en disant « Christ revient telle date ». Et c'est vraiment honteux et ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Il suffit de lire un peu la Bible pour voir qu'on n'a pas à fixer une date. Mais dans la Bible, il y a des images qui sont intéressantes sur le retour de Christ. Et Jésus en a donné une, c'est les vierges sages et les vierges folles. C'est une histoire qui est très connue, mais les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire. C'est une parabole. Il y a 10 vierges qui attendent les mariés. Il faut connaître un peu les mariages en Orient pour comprendre. C'est qu'en Orient, le fiancé va chercher son épouse chez ses parents. Elle habite chez ses parents, il va la chercher et il y a toute une... cérémonie et il y a tout ensuite une procession vers la salle des noces. Et le long de cette procession, il y a les amis des époux qui les accompagnent, qui chantent, il y a la fête. Et puis, il y a ceux qui attendent à la salle des noces. Et là, il y a les 10 vierges qui attendent à la salle des noces. Et on leur dit, l'époux va arriver. Alors, elles attendent. Et il y en a 5 qui se sont préparées à attendre longtemps et qui ont de l'huile dans leur lampe. Et donc, elles continuent d'attendre. Et puis, il y a les 5 autres qui ne se sont pas du tout préparées, qui n'ont pas compris ce qui se passait exactement, et elles s'endorment. C'est une parabole, mais comment est-ce que j'attends Jésus-Christ? Est-ce que je l'attends avec zèle, avec ferveur, avec patience? Le fait qu'il ne vienne pas aussi vite que j'aurais voulu. Quand Israël est revenu en 1948 dans son pays, tous les théologiens de la Bible évangélique ont dit « Ça y est, c'est la fin du monde, encore une génération et c'est bon ». Et puis une génération est passée et Christ n'est pas revenu. Alors il y a eu beaucoup qui ont été découragés. Ils ont dit, quoi ça sert? Mais il ne faut pas se décourager, il faut être une vierge sage. Il faut continuer d'attendre le Seigneur et de vivre comme s'il allait revenir là, parce qu'il a dit, il n'y a rien qui le retient, il peut revenir d'une minute à l'autre. Rien ne le retient, nous attendons le Seigneur, on n'attend pas l'antéchrist, on n'attend pas la fin du monde, la destruction du monde, on attend Christ. Et ça, c'est une vierge sage. Les vierges folles, elles laissent tomber. Il y a des chrétiens qui s'appellent chrétiens et qui essaient de construire le royaume de Dieu sur terre. Ils font de la justice sociale, ils essaient de faire de la politique. Christ ne nous a pas demandé de faire cela en tant que chrétiens. Il nous a demandé d'annoncer l'évangile. Et puis, il y a une récompense pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. C'est écrit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 8. Il y aura une couronne pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous aimez le retour de Christ? Est-ce que nous aimons le retour de Christ? Ou est-ce que c'est un sujet qui nous dérange? Au sens où, moi j'aimerais vivre ma vie terrestre longtemps, j'espère que je vais vivre vieux, et si Christ revient comme ça, ça va un peu... je ne sais pas quoi penser. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont troublés avec cette idée. Pourtant, c'est clair dans l'Écriture. On doit aimer. On doit attendre son retour, on doit même le hâter. Il y a les enfants du jour et les enfants des ténèbres, dit la Bible. Est-ce que vous êtes un enfant du jour ou un enfant des ténèbres? La Bible dit que Jésus va venir comme un voleur. Je vous lis ça en 1 Thessaloniciens, 1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments du retour, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'on sait quand le voleur vient? Est-ce qu'il envoie un rendez-vous, le voleur, en disant « J'arrive demain soir dans la nuit à 3 heures du matin » Non, le voleur ne prévient pas. Et donc le Seigneur viendra comme un voleur. On ne sait pas quand. Quand les hommes diront « Paix et sûreté, tout va bien, je n'ai rien à craindre. » Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà l'attitude du chrétien. Il veille. Il sait qu'un voleur va venir. Celui qui sait qu'un voleur va venir, il veille. La nuit, il a l'oreille prête. Il a mis un système d'alarme. Il est prêt. Mais celui qui est dans les ténèbres, il ne se prépare pas. Je suis terrifié et triste de voir que des millions de gens ne se préparent pas à mourir. On prépare ses vacances, on prépare sa retraite, on prépare son voyage à peu importe où. Ah ça, alors là, on prépare, là. Là, on y va, hein. On cherche Internet, machin, on achète. On est super prêt. Mais alors, la mort, qui est le plus grand rendez-vous de l'homme, hein, qu'on peut pas, tout le monde va y passer, là, les gens ne se préparent pas. Alors, c'est sûr, il y a une peur, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer? Ce qu'on peut faire, c'est avoir un sauveur pour ce jour-là. Ce qu'on peut faire, c'est avoir la vie éternelle. Parce que dans ce cas-là, la mort n'est plus cet ennemi. La mort est vaincue. Quand on a le ressuscité, Jésus avec nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit la Bible. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes un enfant du jour? Est-ce que vous serez surpris quand Christ va revenir? Vous dire, oh, je suis pas prêt. Alors, en tant que chrétien, il faut être prêt. Il faut veiller. Il faut être toujours prêt. Imaginez qu'on vous dise, voilà, le président de la République et les principaux ministres vont venir chez toi bientôt. Donc, un soir, ils vont sonner à ta porte et ils vont dîner avec toi. Ah, super, d'accord. Mais alors, je peux avoir le jour et la date, s'il vous plaît? Ah non, on n'a pas de date. On sait qu'ils vont venir, ah, c'est sûr. Hein, ils ont dit, mais ils ne peuvent pas te donner de... Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez préparer votre maison. Vous allez nettoyer du sol au plafond. Vous allez avoir toujours un bon repas prêt. Et puis, vous allez veiller. Vous allez dire, bon, c'est pas ce soir. Bon, ben, peut-être demain soir. Et puis, non, peut-être après-demain soir. Mais rendez-vous compte, le Seigneur, c'est tellement plus haut que le président et les ministres. Le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que, en tant que chrétien, je peux dire, voilà, je marche avec le Seigneur. Je ne vis pas dans le péché. Je ne suis pas en train de faire des choses que Dieu réprouve. Je fais la volonté de Dieu. Je suis prêt. Si le Seigneur vient, il ne va pas me surprendre. Il va pas, je ne vais pas être là. Oh, vite, vite, cachons les choses. Non, je n'aurai rien à cacher parce que je suis prêt. Voilà ce que Dieu veut, hein, par rapport au retour de Christ. Et puis, je terminerai ce matin avec cette idée que lorsqu'on attend le retour de Christ avec cette joie, lorsqu'on aime son avènement, ça change notre façon de vivre. Il y avait ces colons qui sont arrivés dans un village de la forêt. Et là, il y avait une tribu qui vivait là depuis très longtemps. Et puis, les colons se sont installés. Ils ont commencé à construire leur maison, là, en bois, en ciment, des belles grandes maisons. Et les gens de la tribu, ils ont regardé, mais ils se sont dit entre eux, mais moi, je ne comprends pas les hommes blancs. Parce que bon, pour eux, c'est les hommes blancs. Ils construisent leur maison comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et on peut vivre de cette façon, c'est-à-dire dire non, il n'y a pas de retour de Christ, je ne vais pas mourir, je vais vivre 1000 ans. Et on vit, on s'attache aux choses du monde, on accumule des choses dans le monde. On a toute sa pensée sur des choses, en fait, qui vont disparaître. Des choses terrestres vont disparaître. Ce pupitre, un jour, il va disparaître. La chaise sur laquelle vous êtes va disparaître. Cette salle va disparaître. Notre corps va disparaître. Tout est voué à la mort, à disparaître, sauf l'âme éternelle et la vie éternelle. Alors ça ne disparaît pas. Les âmes ne disparaîtront pas. Et est-ce qu'on s'occupe de notre âme? Est-ce qu'on s'occupe des âmes? C'est ça la chose la plus importante. Christ a dit, hein, ne massez pas des trésors sur la terre. Mais massez-vous un trésor dans le ciel. Ce n'est pas trop compliqué à retenir. Mais mettre en pratique, c'est une autre histoire. Ne pas amasser sur la terre, mais amasser dans le ciel. Comment j'amasse des choses dans le ciel? C'est quand je vis pour le Seigneur. Là, c'est pour les chrétiens. Hein, quand je marche avec Dieu, quand je témoigne, quand il y a des âmes qui sont touchées, quand j'édifie les autres, quand je suis un encouragement. Alors, quand on attend le retour de Christ, ça donne envie d'être pur pour son arrivée. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, je lis « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » Comme Jésus lui-même est pur. Quand on pense au Seigneur, quand on attend son retour, quand on dit « moi je vais aller au ciel », on se purifie. Parce qu'au ciel, tout est pur. Sur la terre, il faut dire, hein, il y a beaucoup d'impureté. Beaucoup d'impureté. Même dans les églises, tout le monde n'est pas parfaitement saint, il y a de l'impureté. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Mais au ciel, il n'y a pas une once de péché. Parce que c'est la demeure de Dieu. Dieu ne supporte aucun péché, il est absolument saint, il est trois fois saint, dit la Bible. Alors quand on pense au ciel, quand on dit ma demeure va être au ciel, on se purifie. Juste ces jours-ci, il y a des pauvres propriétaires d'un logement qui ont visité leur logement que leur a laissé leur dernier locataire. Ils sont arrivés là et ils ont vu une porcherie. C'est-à-dire, ils ont dit, cette personne n'a pas dû vider ses poubelles depuis 6 mois. Il y avait, mais c'était une porcherie, il y avait des excréments, il y avait tout. Cette personne, je ne sais pas pourquoi elle a vécu comme ça, comment elle a pu vivre comme ça, mais je sais qu'il y a un syndrome hein, où les gens n'arrivent pas à jeter leurs poubelles, mais bon là, c'est quand même grave. Mais quand on attend le ciel, on veut être propre sur la terre. On ne veut pas vivre dans une porcherie, on ne veut pas avoir, surtout la porcherie de l'âme, n'est-ce pas ? C'est pas simplement là où on vit, c'est dans ma tête, dans mes pensées, dans mon âme, dans ma vie. Est-ce que c'est pur ? Est-ce que j'ai envie, quand le Seigneur revienne, allez, on va vers la pureté, est-ce que c'est ça que j'attends ? Est-ce que j'aime la pureté ? Et puis, quand on attend le Seigneur, justement, ça nous protège de trop s'attacher. 1 Pierre 2,11 dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il y a beaucoup de guerre dans l'âme des gens parce qu'ils ont des convoitises. Mais quand on est un étranger et un voyageur, nous sommes de passage, notre cité à nous est dans les cieux, on l'a lu au début. Je suis de passage sur cette terre. Est-ce que je le réalise ? On a du mal à réaliser ça. Je ne fais que passer. Peut-être si je vis 90 ans, tant mieux, je vais passer 90 ans. Mais ce n'est qu'un passage, c'est rien 90 ans par rapport à l'éternité. Mais nous, on s'installe comme si on allait vivre éternellement sur cette terre. Et du coup, on passe à côté des vraies choses, de l'essentiel. J'aime bien citer toujours ce qu'a dit le président Kennedy. À son époque, c'était vrai et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il disait « Les jeunes Américains ont tout » c'est-à-dire tout ce qu'ils veulent, hein, le matériel, hein, sauf l'essentiel. Il n'a pas précisé ce que c'était, mais ils ont tout, sauf l'essentiel. Souvent, hein, c'est l'amour, la paix, la pureté, la vie éternelle, ça, beaucoup de gens ne l'ont pas. Par contre, ils ont tout le reste qui ne sert à rien. Et puis, quand on attend le Seigneur, ça nous motive à annoncer la bonne nouvelle. Un jour, on a interrogé ce fondateur d'église et missionnaire qui s'appelait A.B. Simpson. Il a fondé les églises de l'Alliance chrétienne missionnaire. Il y a un certain nombre d'églises comme ça en France. Et c'était un Américain ou un Canadien, je crois. Canadien. A.B. Simpson. Et on a dit, mais par votre foi, votre ministère, il y a plein d'églises qui ont démarré dans le monde. Il y a plein de missionnaires qui sont partis. Mais pourquoi vous faites ça ? Et il dit, il y a un verset qui m'a touché et j'aimerais le mettre en pratique, c'est Matthieu 24, 14. Est-ce que vous voulez regarder aussi ? Parce que ce verset peut nous toucher également. Matthieu 24, 14. C'est dans le fameux chapitre 24, hein, du retour de Christ. Où il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et même si on peut l'appliquer hein, à la fin de la fin, là, ce passage, ce verset, on peut commencer à le mettre en pratique. Il faut répandre la bonne nouvelle, il faut la prêcher dans le monde entier, alors viendra la fin. Comment la fin va venir ? C'est quand on prêche la bonne nouvelle. Quand la dernière âme sauvée sera sauvée, le Seigneur dira, c'est l'heure, et il reviendra. Mais c'est à nous aussi de répandre cette bonne nouvelle. Si Dieu nous laisse sur la terre, là, maintenant, c'est pour qu'on soit des témoins, pour qu'on partage ce salut extraordinaire. Alors, attendons le Seigneur, et pendant qu'on l'attend, ne restons pas couchés à la maison en disant « j'attends le Seigneur », mais travaillons et luttons, comme dit le cantique. Et il y a les deux extrêmes, hein. Il y a ceux qui disent il n'y a pas de retour de Christ, tout ça. Vis ta vie comme tu veux. Hein. Et puis, il y a les autres qui disent, non, il va revenir telle date. Alors, il faut un peu fanatique, là, il faut tout vendre. Mais la Bible n'est ni l'un ni l'autre. La Bible, c'est attendez le retour de Christ. Et pendant que vous l'attendez, soyez sobre, veillez et annoncer la bonne nouvelle. C'est un message très simple, mais il faut le vivre et surtout s'en rappeler, parce qu'on oublie tellement facilement ces choses, hein, que notre citoyenneté dans les cieux. On s'installe si vite sur la terre, mais on doit remettre toute sa vie, tous nos biens au Seigneur. Seigneur, ça t'appartient. Seigneur, c'est à toi. Merci de tout ce que j'ai, mais je veux le consacrer aussi pour aider les autres, hein, et servir les autres et les âmes éternelles. Si vous avez le désir d'en savoir plus sur le retour de Christ, il y a un excellent livre, vraiment un classique, qui s'appelle « Le retour de Jésus-Christ » de René Pache, que vous pourrez trouver à la Maison de la Bible dans une librairie chrétienne. René Pache, c'est quelqu'un qui était vraiment très, très, très versé dans les Écritures. Et c'est rempli de versets bibliques, et c'est très bien construit, très clair, très compréhensif. Et c'est un excellent livre à lire, pas à posséder, mais à lire, qui vous touchera certainement, qui nourrira votre âme sur ce sujet. On va terminer par la prière. Juste avant que je prie, je repose la question de tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt? Si le Seigneur revenait, est-ce que vous seriez prêt? Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous avez fait la paix avec votre Créateur? Pour ce faire, il faut reconnaître ses fautes déjà à Dieu et il faut lui demander pardon. Et il faut recevoir Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui est celui qui nous pardonne justement. Il nous pardonne parce qu'il a payé notre dette sur la croix. Sans ça, on ne pourrait pas être pardonné. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce qu'il a pardonné vos péchés? Est-ce qu'il vous a donné la vie éternelle? Est-ce que vous croyez qu'il est là au ciel en train de vous préparer une place? Si ce n'est pas le cas, vous avez encore cette opportunité que Dieu vous laisse ce matin. Ne la ratez pas. Dans votre cœur, vous pouvez parler au Seigneur. Il vous entend. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je reconnais mes fautes contre toi, contre les hommes. Je suis coupable et je te demande pardon. Et je crois que Jésus a payé ma dette sur cette croix. Je crois qu'il est ressuscité. Et je crois qu'il peut me sauver ce matin. Et Seigneur, je te demande de me pardonner, de me sauver. Dans le nom de Jésus. Amen.